6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
Et la une de ce vendredi 31 mai 2024.
Pour une fois, l'adjectif historique n'est pas galvaudé. Donald Trump déclaré coupable de tous les chefs d'accusation à son procès au pénal. Une première pour un ancien président américain. Quand Benjamin Netanyahou compare les frappes israéliennes sur Rafah au débarquement en Normandie, le premier ministre israélien était interviewé hier soir sur LCI. Et puis, printemps morose, terrasse vide, la pluie ne fait pas les affaires des restaurateurs.
Après ce journal, faut-il nationaliser le périphérique, supprimer 100 000 postes d'élus, mais mieux rémunérer les élus locaux? Les propositions d'Éric Woerth en matière de décentralisation, ce sera dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, le boom des médicaments anti-obésité et anti-diabète au programme de la France de demain avec le directeur général d'Adocia. Et puis les classiques de l'économie, portrait de l'économiste William Nordhaus ce matin avec Natacha Valla à 6h20. Le journal de 6h de Radio Classique avec Virginie Fulpin et cette info à la une. Donald Trump déclaré coupable de tous les chefs d'accusation dans son procès au pénal.
34 fois coupable. Les 12 jurés ont déclaré à l'unanimité l'ancien président des États-Unis coupable des 34 délits de falsification de documents comptables, des documents destinés à cacher un paiement de 130 000 dollars à une ancienne star du X pour éviter un scandale sexuel. Donald Trump encourt jusqu'à 4 ans de prison ferme. Sa peine sera prononcée le 11 juillet. Ses avocats ont déjà annoncé qu'il faisait appel. Ce verdict historique n'empêche pas l'ex-président d'être candidat à l'élection de novembre, Nina Droff.
Non, cette condamnation pénale n'empêchera pas Donald Trump d'être candidat, ni de poursuivre sa campagne pour les présidentielles. Il retrouve même une liberté de mouvement totale. Il est reparti libre, sans caution à payer. Face aux caméras, l'ancien président a dénoncé un procès truqué, orchestré par l'administration Biden. Le vrai verdict sera celui du peuple. Le 5 novembre, a-t-il affirmé. L'équipe de campagne de Joe Biden s'est contentée d'une réponse sobre. Nous avons vu aujourd'hui que nul est au-dessus des lois, ont-ils déclaré. Et ce n'est pas la fin des démêlés judiciaires de Donald Trump. Il pourrait faire face à 3 autres procès d'ici l'élection. Il est accusé d'avoir conservé des documents classifiés à son domicile personnel, d'avoir manipulé le résultat des élections dans l'État de Géorgie en 2020 et enfin d'avoir diffusé des mensonges sur des fraudes électorales qui ont mené à l'assaut du Capitole.
Merci Nina Droff, vous le disiez, à la Maison-Blanche, on joue la sobriété. Le président Biden respecte la loi et ne fera pas de commentaires, dit un de ses porte-parole. Joe Biden sera en visite d'État à Paris le 8 juin, après les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Au menu notamment le soutien des alliés à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sera aussi en Normandie, contrairement à la Russie qui n'est pas invitée. Le débarquement en Normandie, justement, c'est la référence historique de Benjamin Netanyahou pour parler de la guerre à Gaza. Le premier ministre israélien a donné hier soir une interview à LCI. C'est la première fois qu'il s'adressait à un média français depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Et il n'a pas hésité avec les comparaisons historiques, Lauriane Toulmont.
Après le tollé international provoqué par les bombardements à Rafah, le premier ministre israélien justifie son attaque dans le sud de la bande de Gaza en convoquant l'histoire.
Ce qu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie. On ne fait pas ce que faisaient les alliés à Dresde. On ne fait pas de tapis de bombes.
Quant à la reconnaissance d'un État palestinien, Benjamin Netanyahou place la carte d'Israël sur la France.
Si vous construisez un État terroriste, non pas à des milliers de kilomètres de Paris, mais dans la banlieue, à côté de chez vous, est-ce que vous pensez que ça créerait la paix? Donc non, on doit se débarrasser du Hamas, c'est très difficile à faire, parce qu'il y a ce réseau de tunnels souterrains de 500 km qui est plus grand que le métro parisien.
Le chef du gouvernement israélien qui agite la menace terroriste en France en rappelant plusieurs attentats.
Ce n'est pas seulement notre problème, vous avez eu des choses horribles avec le professeur Paty, le père Hamel.
Égorgé dans son église. Benjamin Netanyahou affirme que la guerre peut se terminer en 5 minutes si le Hamas dépose les armes. Mais Israël ne quittera pas Gaza tant que, dit-il, tous les Palestiniens ne seront pas déradicalisés.
Cette interview de Benjamin Netanyahou a provoqué de la colère à gauche. Notamment, la France Insoumise a appelé à un rassemblement devant les locaux du groupe TF1 hier soir. Jusqu'à 2500 personnes étaient présentes. Les forces américaines et britanniques ont mené des raids contre les rebelles Houthis cette nuit au Yémen. Les Houthis attaquent régulièrement des navires en mer Rouge en soutien à Gaza.
La situation des enfants placés est inquiétante en France.
Les députés ont constitué une commission d'enquête sur les manquements de l'aide sociale. Et le premier bilan est assez alarmant, surtout pour les plus petits. 11 000 enfants de moins de 3 ans sont placés dans des établissements qui manquent de tout. C'est ce que constate Isabelle Santiago, la députée socialiste et la rapporteuse de la commission, et elle demande des mesures d'urgence.
J'ai été choquée, très choquée. D'un côté, il y a une augmentation des placements, beaucoup de violences intrafamiliales les incidences de l'après-Covid. In fine, des tout petits se retrouvent placés. Et puis, il y a le taux d'encadrement. Ce taux, c'est pour la protection de l'enfance chez les bébés. C'est un décret de 1974 qui n'a pas été revisité. C'est un adulte pour 30 la nuit et 1 pour 6 dans la journée. J'ai visité des choses qui sont inadmissibles. Si c'est pour les accueillir comme ça, je pense qu'il faut tout revoir. C'est des enfants à protéger, mais là, on ne les protège pas.
La députée socialiste Isabelle Santiago. Puisqu'on en est au bilan, quel est celui du dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire? C'était une des mesures fortes du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Des classes de 12 élèves pour faciliter les apprentissages et remédier aux inégalités scolaires. Et c'est assez mitigé, Victoire Fort.
Les enseignants notent incontestablement des conditions de travail bien meilleures en petits groupes de 12. Cela se ressent sur l'apprentissage des fondamentaux, comme la lecture au CP. Mais sur les compétences plus complexes, comme la résolution de problèmes, le bénéfice est moins évident. Dans les académies les plus peuplées, les classes de 12 ont en réalité débordé à 14, 16 élèves. Et faute de place, certaines écoles sont obligées d'installer deux petits groupes dans une seule salle de classe. L'inquiétude, c'est que les acquis soient perdus à l'arrivée en CE2 et que cette mesure ne porte pas entièrement ses fruits sans une formation adaptée pour les professeurs. Enfin, l'objectif du dédoublement est de réduire les inégalités entre élèves, sauf que la mesure rate en partie sa cible. 745 écoles devraient entrer dans le dispositif mais sont laissées de côté, car la carte de l'éducation prioritaire n'a pas évolué depuis 10 ans.
2 ans d'attente et c'est maintenant officiel. EDF reprend les activités nucléaires de General Electric. C'est effectif aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron l'annonce dans plusieurs quotidiens régionaux ce matin. Ça inclut la fabrication des turbines Arabelle, un équipement essentiel des centrales nucléaires. On se fait une terrasse.
Oui.
C'est une des phrases de printemps, normalement. Mais alors que le mois de mai s'achève, on n'a pas passé beaucoup de temps à tabler dehors. À cause de la météo, évidemment, les restaurateurs subissent les conséquences de la pluie, Chloé Sénard.
Vous voulez déjeuner dehors, dedans?
En ce moment, les clients répondent surtout dedans. Pourtant, les places en terrasse ne manquent pas. Une centaine dans ce restaurant du 8e arrondissement de Paris, géré par Philippe Porte.
On a réussi à faire quelques couverts sous les bâches. Mais sur l'autre partie, avec l'inverse du début de service, ça a été très compliqué.
Il a payé 12 000 euros pour installer 2 terrasses éphémères. Un investissement pour l'instant peu rentable qu'a aussi fait Denis Abbas à quelques mètres de là.
J'ai sorti les parasols en même temps que la terrasse, je ne les ai installés qu'une fois. Quand il y a une éclaircie, on a un petit peu de monde, mais malgré tout, on a du mal à faire le plein parce qu'il fait froid.
Il va perdre de l'argent, moins 20% de chiffre d'affaires par rapport au mois de mai de l'année dernière. Et il va aussi devoir réinvestir dans du matériel.
Les tables, je ne sais pas si vous avez vu, ça commence à gondoler parce que même si on les protège, c'est pas complètement étanche. Et oui, ça va être compliqué. Oui.
Et cette météo n'épargne aucun restaurateur, selon Franck Chaumès, président de Lumi Restauration.
Il y a quand même à l'intérieur des terres entre moins 30 et moins 35% de fréquentation. Et sur le littoral, on est à moins 40 et à certains endroits, moins 50.
Le manque à gagner ne pourra pas être rattrapé, selon lui, à moins que soleil et chaleur prolongent la saison jusqu'en octobre.
Le reportage de Chloé Sénard pour Radio Classique. La météo maussade, on en subit aussi les conséquences à Roland-Garros. Bien sûr, on joue entre les gouttes. Ça a quand même laissé le temps à la Française Chloé Paquet de se qualifier pour le 3e tour pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem. Qualification aussi de Varvara Gracheva et Corentin Moutet. C'est fini en revanche pour Gaël Monfils, dominé par l'Italien Musetti. Gaël Monfils, qui a le même âge que Raphaël Nadal, on le rappelle, parce que là aussi, c'est on se rapproche cruel de la fin.
Vous êtes vraiment
c'est pas cru, oui, nostalgique plutôt.
Non, mais faire des comparaisons comme ça, c'est pas facile. Virginie Fulpin, merci beaucoup, vous revenez malgré tout à 7h. Comment avancer sur la décentralisation et gagner en efficacité? Éric Woerth a remis ses propositions sous forme d'un texte de loi, c'est prêt à l'emploi. C'est dans les titres de l'économie dans un instant. On va parler ensuite des nouveaux traitements contre les maladies comme l'obésité et le diabète avec le premier invité de cette matinale écho dans la France de demain. Radio Classique, il est 6h09.
Le 9 juin, les citoyens français sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Les enjeux n'ont jamais été aussi cruciaux avec cette période de grande incertitude liée notamment à la guerre en Ukraine. Comment l'Europe a-t-elle évolué ces 5 dernières années? Quelles stratégies pourront être adoptées en fonction des résultats? Comment les partis français se préparent déjà pour la présidentielle 2027? Les journalistes experts de La Croix et La Croix Lebdo répondent à ces questions et bien plus encore dans notre grand dossier La Croix, le nouvel âge de l'Europe, en vente chez votre marchand de journaux jusqu'au 10 juin.
Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti.
Simone Veil est en train de devenir une héroïne. Comment se positionne-t-elle en tant que leader, mon cher Gérald ?
Elle a vécu des moments d'une extrême souffrance et en même temps, c'est une femme qui allait de l'avant. Et l'autre personnage, c'est Valérie Giscard d'Estaing qui a voulu la loi sur l'avortement et Simone Veil l'a portée. On va regarder tout ça.
Disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes de streaming habituelles. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. WHOZ.com. La matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
Il est 6h10, les titres de l'économie, le suspense. Jusqu'à ce soir, 22h, l'agence de notation Standard & Poor's nous avait laissé il y a un an sur une note de double A, mais avec perspective négative. C'est un peu l'équivalent d'un 18 sur 20 actuellement. Plusieurs critères sont réunis pour une dégradation, à commencer par la hausse du déficit et de la dette en valeur absolue, comme rapporté au PIB. C'est dans ce contexte qu'un dérapage du déficit de la Sécu pour 2024 a été annoncé hier. Ça ne sera pas 10 milliards, mais 16 milliards et demi d'euros dans le rouge. L'augmentation générale des pensions des retraités de 5%, 5,3 même. Au 1er janvier dernier, contribue à ce creusement du déficit. La branche maladie est aussi en cause avec 3 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Et puis le fonds canadien Brookfield devrait s'emparer du groupe français Neoen, spécialiste du développement des énergies renouvelables. L'OPA à 6 milliards d'euros a été accepté par le conseil d'administration de Neoen. Recentralisé par-ci et décentralisé par-là, Eric Woerth assume dans la présentation de son rapport d'aller dans les deux sens, l'idée globale étant tout de même l'efficacité et la recherche d'économies. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour François, bonjour à tous.
Le fait économique du jour, ce sont les propositions assez tranchées de l'ancien ministre du budget en matière de décentralisation.
On a 51 propositions pour améliorer notre organisation territoriale. D'abord une clarification des compétences, il s'agit de faire plus simple. Les communes seraient en charge du logement, les départements de l'aide à domicile, des musées et des routes. Enfin, les régions auraient la main sur ce qui concerne le développement économique, les ports maritimes et les trains. Autre piste évoquée, le retour du cumul des mandats avec la possibilité de devenir député-maire ou sénateur-maire. Cela permettrait de mieux appréhender à l'échelle nationale les problématiques locales. À noter également parmi les mesures proposées, la réduction de 20% du nombre de conseillers municipaux, soit environ 100 000 élus en moins. Le rapport encourage par ailleurs la nomination d'un conseiller territorial dont la mission serait de faire mieux travailler ensemble les départements et la région. Il est aussi question de modifier le scrutin des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, supprimer la métropole du Grand Paris au profit d'intercommunalités et puis nationaliser le boulevard périphérique de la capitale actuellement géré par la mairie de Paris.
Éric Mauban en direct. L'actualité économique dans la presse du jour, d'abord cet article du Parisien. Il raconte le jour où la France a eu une mauvaise note, il au pluriel. François Baroin, notamment en 2012, ministre de l'économie à ce moment-là, qui avait minimisé le jour de la perte du fameux triple A en expliquant « c'est comme un élève qui a eu 20 toute sa vie et qui vient d'avoir 19 ». Eh bien, c'est exactement ce qu'un conseiller de l'exécutif actuel donne comme argument pour minimiser, en glissant aux Parisiens. Au mieux, on reste à 18, puisque depuis, on a rebaissé. Au pire, s'il y a un problème, on passe à 17 sur 20. On voit que les recettes en termes de communication n'ont pas changé. À l'époque, Nicolas Sarkozy était visiblement très angoissé par le sujet, parce que c'était au début de la campagne pour tenter de se faire réélire président. On verra si, comme lui en 2012, la majorité macroniste subira une lourde défaite dans 9 jours aux élections européennes en cas de dégradation ce soir. Un article des Échos du jour, Macron revient à la charge pour attirer la FIFA à Paris. Ça fait 5 ans maintenant que le président français s'active pour que le siège de la Fédération Internationale de Football déménage. Revenir, car c'est là qu'elle était née en 1904, avant de déménager en Suisse dans les années 30. Dans le dernier projet de budget avait été ajoutée une disposition créant une sorte de paradis fiscal sur mesure en France pour les fédérations sportives internationales. Disposition retoquée par le Conseil constitutionnel, mais Emmanuel Macron vient, selon les Échos, de réaffirmer au patron de la FIFA, Gianni Infantino, que la France mettrait bien en place ce cadre avant un jeu en 2025. Et puis, l'info va faire sursauter les fumeurs. Elle est en une du Figaro Économie. Va-t-on vers un paquet de cigarettes à 20 euros pour préserver la santé des Français? C'est la proposition d'un rapport sénatorial. Augmenter le prix des produits de tabac de 5% par an jusqu'en 2040, et ça va assez vite. Sachant que le prix du paquet est déjà en Nouvelle-Zélande comme en Australie dans cette gamme de prix-là. Et l'OMS recommande cette hausse de prix comme moyen de plus efficace pour faire reculer la consommation de tabac. Il est 6h14. La France de demain sur Radio Classique. Bonjour Olivier Soula.
Bonjour.
Bienvenue dans La France de demain. Vous êtes le directeur général d'Adocia. Adocia, c'est une biotech principalement spécialisée dans les domaines de l'obésité et du diabète. Racontez-nous comment est né ce projet de biotech.
C'est un projet au départ familial, puisqu'on a créé cette société il y a 19 ans, mon père, mon frère et moi. Et spécialiste de physico-chimie, de chimie, on s'est attaqué à des problèmes, on peut dire, de pharmacocinétique, c'est-à-dire comment administrer des médicaments. Et on a développé des produits innovants avec un focus sur le diabète. Et puis maintenant, l'obésité, qui est, on voit bien, liée au diabète, puisque c'est aussi un dérèglement du métabolisme.
Donc, c'est pas dans le cœur de la molécule, c'est dans l'administration de celle-ci que vous avez développé les compétences?
Exactement. On a développé des technologies pour résoudre un problème d'administration, notamment de l'insuline, qui est une hormone vitale pour un certain nombre de patients, dits insulino-dépendants. On parle des diabétiques de type 1, de 5% des diabétiques de type 2 les plus avancés. Cette insuline va devoir réguler la glycémie. Et la glycémie, le glucose, c'est notre carburant. On doit avoir à peu près à chaque instant 1 gramme par litre de glucose. Comme on respire, on doit compter sur ces carburants pour faire de l'énergie. Cette insuline, malheureusement, dans certains patients, n'est plus produite par les cellules bêta qui sont détruites dans le pancréas. Donc, on va trouver des moyens thérapeutiques, des formulations pour assurer tous ces différents profils.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les traitements étaient insuffisamment bien acceptés par certains patients?
Alors, il se trouve que l'insuline a été découverte il y a 100 ans et pendant 100 ans, on n'a fait que des petites innovations, et on appelle ça des innovations incrémentales, et il reste encore à faire progresser ces profils pharmacocinétiques. Et comme ça, on fait une insuline ultra rapide. Mais il y a aussi, aujourd'hui, une autre dimension, une dimension où on a enrichi le traitement hormonal de l'insuline avec notamment une hormone de satiété qui est aussi co-sécrétée par ces mêmes cellules du pancréas. Et ainsi, on se retrouve avec un traitement qui, pour la première fois, permet au patient d'avoir un meilleur contrôle de son alimentation et de perdre du poids. Parce qu'il faut savoir que toutes les insulines sont des hormones de croissance qui font prendre du poids. Et donc le problème est tellement prégnant, cette obésité dans cette population, qu'on parle même de diabésité, la contraction de diabète et d'obésité. Donc pour la première fois, nous avons développé une coformulation d'insuline et d'une hormone de satiété qui s'appelle l'amyline, qui est sécrétée par les mêmes cellules qui sécrètent l'insuline et du coup qui est manquante chez cette population qui est dépourvue de ces cellules.
Alors vous avez pas mal de fer au feu, de projets, 4 candidats médicaments au moins. Parlez-nous déjà de M1PRAM, qu'est-ce que c'est?
Eh ben alors M1PRAM, c'est précisément ce produit-là qui combine de l'insuline à de l'amyline pour offrir au patient un meilleur contrôle de son alimentation et au final un traitement qui fait perdre du poids pour les patients qui seraient en excès de poids.
Et où en est ce projet?
Alors aujourd'hui, on est en étude dite de phase 2, c'est-à-dire qu'on a pu faire la démonstration qu'au bout de 4 mois, des patients obèses pouvaient perdre 5,6 kilos en remplaçant simplement leur insuline, en assurant le même contrôle de leur glycémie, mais en ayant ce bénéfice en termes de régulation de leur poids.
Autre produit que vous développez, Adochel, de quoi s'agit-il?
Alors Adochel, c'est un projet encore plus ambitieux. On peut parler de Graal dans notre domaine, qui est de guérir du diabète insulino-dépendant.
Définitivement.
Définitivement, en implantant des cellules, ces fameuses cellules qui régulent la glycémie des patients en produisant à la demande de l'insuline. Et donc, on a développé pour ça un biomatériau dit immunoprotecteur, c'est-à-dire qui va permettre à ces cellules d'être implantées sans qu'elles soient détectées et détruites par le système immunitaire. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire, depuis même près de 30 ans, implanter des cellules comme ça, mais malheureusement, on a besoin d'avoir recours à des immunosuppresseurs qui exposent les patients à d'autres risques que celui du diabète, comme des risques d'infection, même de cancer. Là, en ayant inventé ce biomatériau, en encapsulant ces cellules, on les cache du système immunitaire et on peut, du coup, se passer d'immunosuppresseurs. Ça, c'est vraiment un grand espoir pour nous, pour les patients, évidemment.
Alors, vous êtes lancé comme biotech donc familiale au départ. Aujourd'hui, vous êtes en lien direct avec Sanofi.
Alors, Sanofi, il se trouve, a pris une option, notamment sur le produit M1PRAM, une option pour trouver un accord sur un partenariat global pour développer et commercialiser ce produit, cette, comme je disais, première insuline qui ferait perdre du poids.
Les financements sont là. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça aille à terme, toutes ces recherches qui ont l'air très prometteuses?
Alors, on est dans une, on a une politique assez frugale. Évidemment, l'important, c'est d'avancer nos projets et c'est ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, la situation financière de la société est saine et les projets que nous avons en main sont de grandes ambitions et sont très prometteurs.
Mais comment vous observez plus globalement la vague incroyable des médicaments coupe-faim ou anti-obésité, Novo Nordisk, Eli Lilly et les autres?
Alors, tout à fait. Là aussi, c'est des hormones de satiété, hein. Et c'est pas des coupe-faim. Il faut bien comprendre qu'en fait, les gens régulent leur appétit, mais ils ne le coupent pas. Et comme je le disais, l'amyline est une autre classe que c'est la classe de CGLP1 développée par Lilly et Novo. C'est une véritable révolution dans le traitement de l'obésité, puisque on rétablit la physiologie. En réalité, vous, que je vois tout à fait fin, sans excès de poids, eh ben votre organisme vous aide en produisant ces hormones de satiété à bon escient, qui ont un effet sur votre système nerveux central pour réguler votre comportement alimentaire. Et donc, c'est rétablir, c'est renforcer cette arme physiologique que l'on a pour bien se comporter face à l'alimentation. C'est exactement le principe de ces hormones de satiété qui sont, du coup, très différent des coupe-faim. Vous parliez de la cigarette à l'instant.
Oui,
la cigarette est un coupe-faim. Là,
oui,
nous parlons
connu, ouais.
d'une démarche physiologique avec des hormones de satiété pour faire perdre du poids. Et c'est pour ça que ce produit a un succès phénoménal qui va perdurer.
Ouais. C'est passionnant. Et donc, on va suivre tous ces candidats médicaments que vous nous avez évoqués ce matin, présentés. Olivier Soula, merci beaucoup. Directeur général d'Adocia ce matin en direct dans la phrase de la France de demain. Très bonne journée.
Merci.
Il est 6h21.
François Geffrier sur Radio Classique.
Les classiques de l'économie tous les jours sur Radio Classique et le vendredi, on s'intéresse à une personnalité du monde économique avec vous, Natacha Valla. Bonjour Natacha.
Bonjour François.
Doyenne de l'école de management de Sciences Po, cette personnalité ce matin, c'est William Nordhaus.
Oui, William Nordhaus, il n'est pas très connu du grand public et pourtant c'est un père fondateur de l'analyse qui nous sert aujourd'hui pour la transition climatique de façon très large. Il n'a pas fait que ça, il est né en 1941 au Nouveau-Mexique, donc c'est un économiste américain. Il a été prof à Yale, il a très bien connu Paul Samuelson, il a écrit plusieurs articles avec lui, et puis c'est un titulaire du prix Nobel, on reviendra là-dessus, puisque ça a été en 2018, ses travaux sur le réchauffement climatique qui lui ont valu, il était ensemble avec Paul Romer, dont on a déjà parlé, d'avoir cette reconnaissance.
Alors, on parle de lui sur la théorie des choix publics. Vous allez nous expliquer.
C'est une de ses grandes contributions, la théorie des choix publics, public choice. Ça regarde de façon très simple, en fait, la façon dont le cycle électoral, le cycle politique, affecte le cycle économique. Vous allez me dire, c'est tellement évident. Et en fait, ce qu'il nous dit, mais il le modélise, et en fait, il arrive à voir que ça a une vraie réalité, et il peut le quantifier. Pour lui, les électeurs sont myopes. On regarde pas très loin devant nous, on aime bien nos enfants, mais quand même, on va voter en fonction de ce qu'on voit dans le courant de l'année. Et en plus, on n'a pas de mémoire. Donc, imaginez-vous ce que ça donne au moment où on est devant les urnes. Donc finalement, avec cette caractéristique de l'électeur, il va considérer que l'homme politique, qui lui est rationnel par rapport à quoi ? Par rapport à sa capacité à être élu ou réélu. Donc, dans le cas de la réélection, il va mettre en place des mesures, des politiques expansionnistes de soutien à l'activité pour que, sur le papier et dans les faits, pendant l'année qui précède les élections, on ait un taux de chômage qui soit bas, un revenu qui croisse plutôt bien et de la croissance, si possible. Donc voilà. Alors, tout ça, ça permet des réélections et ça a été avéré, mais ça crée malheureusement de l'inflation. Ouais. En tout cas, ça a des effets pervers qui s'expriment ensuite. Oui, complètement. On arrose. Et alors, il va dire dans cette théorie du choix public, il va faire une petite pique envers les banques centrales en disant finalement, c'est un peu à double tranchant cette histoire d'indépendance des banques centrales. On a cru bien faire en disant les banques centrales sont indépendantes du politique, leur but c'est de stabiliser les prix. Mais ce faisant, ça donne finalement ex post ce qu'on appelle un policy mix, donc une association de politique économique du gouvernement et de la banque centrale qui sera pas optimale. C'est-à-dire que la banque centrale sera trop dure au moment où elle estime devoir être dure. Et donc, les gouvernements vont être sur-permissifs, notamment les années qui précèdent les élections. Donc, ça va faire des sortes de cycles, d'amplification des cycles qui sont pas très bonnes pour le consommateur final.
Il a aussi travaillé, William Nordhaus, sur le changement climatique.
Oui, alors le changement climatique, c'est ce pourquoi il est le plus connu ces dernières années. En tout cas, il a été le père d'un modèle qui est très utilisé, le modèle DICE. Donc, c'est un modèle qui lie le climat à l'économie et qui quantifie la valeur sociale du carbone. Pensez qu'il a conçu ça dans les années... Enfin, ça fait longtemps, c'est pas tout nouveau. Mais avant l'accord de Paris même, on avait ces outils-là et on avait cette réflexion sur l'externalité négative en matière de carbone que l'activité économique et industrielle faisait porter à la planète. Et il a non seulement fait ce constat, mais il a essayé de proposer des solutions. Et dans les solutions qui ont été proposées pour corriger cette externalité, il y a d'une part mettre une taxe, en fait c'est la taxe carbone quelque part, une taxe qu'on dit pigouvienne, ou alors créer un marché, on l'a fait aussi, vous allez me dire, qui est un marché des droits à polluer. Alors on a fait un marché du carbone, c'est pas exactement pareil, mais c'est quand même très très similaire. Et donc la question qu'il a posée, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Est-ce qu'il faut créer un marché? Est-ce qu'il faut mettre une taxe? Et comment mettre cette taxe? La grande difficulté, c'est de prendre en compte, dans le prix d'émission du carbone, les intérêts des générations futures. En fait, tout est là. C'est qu'on doit mettre dans une valeur actualisée, une valeur actuelle autant T présent, tout ce qu'on anticipe comme étant les externalités négatives dans le futur infini. Donc ça, c'est pas forcément évident.
Il s'est aussi intéressé, William Nordhaus, au bien-être économique. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Oui, complètement. Alors aujourd'hui, c'est à la mode d'être décroissant ou d'être pour la décroissance. Mais dans les années 70, avec James Tobin, Nordhaus a écrit un article qui s'appelait « Est-ce que la croissance est obsolète ?» et qui a vraiment développé toute cette réflexion qu'on réinvente aujourd'hui sur... il y a tout un ensemble de... Alors, il a creusé ça un peu différemment. Pour lui, il y a un ensemble de... regrettables, il appelle ça les regrettables, donc des dépenses qui sont des dépenses pas inutiles, mais dont on pourrait se passer, ou en tout cas qui n'engendrent pas en elles-mêmes du bien-être. Il met là-dedans le prestige, les dépenses de prestige, les dépenses de diplomatie, les dépenses de sécurité. Donc voilà, il recalcule une sorte de vraies dépenses, enfin de vraies contributions au bien-être, et il trouve qu'il y a quand même un gros écart entre tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on produit et tout ce qui est réellement directement utile.
William Nordhaus ce matin dans les classiques de l'économie avec vous, Natacha Valla. Merci beaucoup et bon week-end.
Bon week-end.
Notre dose matinale de musique classique et d'actualité de ce monde. Bonjour Laure Maison.
Bonjour François, bonjour à tous.
De la mélodie française avec deux maîtres du genre ce matin.
Avec le baryton Stéphane Degout et le pianiste Alain Planès qui explorent depuis des années le répertoire de la mélodie mais aussi celui du lead. Et ils viennent de nous offrir un merveilleux album dédié à Gabriel Fauré. Il nous offre ici un éclairage d'autant plus touchant et intime de ces mélodies de quelques cycles importants de Fauré que le piano sur lequel joue Alain Planès date de 1892, c'est un Pleyel d'époque, mais restauré, avec donc un son très particulier qui incite finalement les deux interprètes à revoir complètement leur interprétation, comme nous l'expliquent Alain Planès et Stéphane Degout.
Ça change le caractère de la conception, car il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que l'on peut faire sur les pianos modernes, et d'autres qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire sur les pianos modernes. Et en même temps, je pense que c'est une façon aussi de... totalement utopique, certes, mais de recréer un peu un parfum ancien, comme, je sais pas, quand un archéologue égyptien ouvre une bouteille de parfum, et puis qu'après, 4000 ans après, il y a encore un petit ersatz de parfum qui sort, voilà.
Ça amène une couleur particulière à laquelle on n'est pas nécessairement habitué au premier abord, mais ça demande pas beaucoup d'adaptation. C'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'échanges. C'est assez fascinant, en fait, de sentir qu'on est un peu ailleurs. Ouais. C'est quelque chose d'inhabituel. Parce que les pianos modernes sont quand même assez standardisés. Ils ont certes des couleurs et des personnalités quelque part. Mais on est dans un son qui est assez unifié, assez international, oui. Et là, tout d'un coup, on a quelque chose de très, assez spécifique. L'espoir veut bien voler vers moi qui la peine et la pleure.
Une mélodie tiré du cycle La Bonne Chanson de Forêt par le baryton Stéphane Degout et le pianiste Alain Planès, qui joue donc ici sur un piano Pleyel de 1892, un extrait de ce magnifique album qui vient de paraître chez Harmonia Mundi.
Ça vous a conquise, je l'entends et je le sens. Merci, Laure Maison, on vous retrouve ce soir à 20h pour le journal du classique.
Avec plaisir, très belle journée à tous.
Une question dans les voies de l'économie. Pourquoi le protectionnisme est à ce point à la mode chez les électeurs américains, qu'ils soient pour Donald Trump ou pour Joe Biden? L'un comme l'autre flatte en ce moment cette aspiration en tapant sur les produits chinois. Mais c'est la même chose en Europe. À l'approche des élections européennes, le consensus des économistes est pourtant plutôt en faveur du libre-échange. François Monnier joue les arbitres à 7h15 avec nous, le directeur de la rédaction d'Investir, dans les voies de l'économie. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour à tous.
La météo avec du beau temps pour les uns et c'est plus mitigé pour les autres.
Du soleil sur la façade ouest et au bord de la Méditerranée. Sur le reste du territoire, les nuages dominent. Des averses orageuses se déclenchent dans le quart nord-est dans l'après-midi. Les maximales cet après-midi, 16 à Paris, 18 à Lyon, 19 à Rennes, 20 à La Rochelle, 22 à Marseille.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec François Geffrier.
Il est 6h30, un nouveau journal en ce vendredi 31 mai 2024.
L'armée israélienne ne mène pas d'attaque non ciblée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahou, invité sur un média français, le Premier ministre israélien, était sur LCI hier soir. C'est une honte, un procès truqué. Donald Trump en colère après sa condamnation au pénal hier soir à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Une première pour un ex-président américain, on va l'écouter. La Nuit Blanche, 23e édition, ce week-end à Paris et en Ile-de-France. Programme marqué par le sport à l'approche des Jeux Olympiques.
Juste après ce journal, le géant du pull Cachemire s'aventure de plus en plus hors du pull et hors du Cachemire. La directrice générale d'Éric Bompard est avec nous dans Comment j'ai réussi. 7h moins le quart, il y a 102 000 réalisateurs en France, va nous dire Quentin Périnel dans sa chronique Au Travail. Pierre Pilet, Benjamin Netanyahou justifie à nouveau l'offensive israélienne dans la bande de Gaza.
Cette fois sur un média français, la chaîne LCI qui fait partie du groupe TF1. 30 minutes d'interview diffusées hier soir. Selon le Premier ministre israélien, l'armée ne mène pas d'attaque non ciblée dans la bande de Gaza. Ce n'est pas notre politique, martèle Benjamin Netanyahou. Et alors que le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt à son encontre, lui conteste ces accusations et compare la situation avec des procès historiques.
C'est comme le procès de Nuremberg lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme si on mettait De Gaulle et Winston Churchill face au commandement allemand, les traiter de la même manière. C'est comme mettre Al-Qaïda et le président américain dans le même procès. Bien sûr, c'est de la folie. Donc je pense que le procureur de la haine, il attise les flammes de l'antisémitisme parce que les gens de par le monde se disent eh bien s'il y a ces accusations, ce sont des accusations qui viennent de la CPI, ça doit être des accusations sérieuses. Et on a vu d'autres tribunaux qui étaient soi-disant des tribunaux sérieux, comme dans l'affaire Dreyfus, qui ont alimenté les flammes de l'antisémitisme en Europe.
Une manifestation a eu lieu devant le siège du groupe TF1 hier soir pour contester la diffusion de cette interview. 2500 personnes réunies selon la préfecture de police de Paris. Après 8 mois de guerre entre Israël et le Hamas en France, ce constat, l'antisémitisme et le racisme font irruption chez les plus jeunes dès le primaire. L'éducation nationale recense près de 1500 actes, Charles Ducrot.
Des enfants viennent avec leurs parents de plus en plus frapper à la porte de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Hélène Bougnol préside le réseau éducation de l'organisation.
Une augmentation de 12,7% de plaintes d'actes antisémites dans le cadre scolaire. Ça devient fréquent et puis plus violent. De plus en plus des menaces de mort. Je vais te faire prendre une douche, tu vois ce que ça veut dire. Des phrases très traumatisantes.
Constat partagé chez les syndicats enseignants, sollicité par des professeurs désemparés, parfois face à des enfants de 6-8 ans. Marie-Laure Tirel, secrétaire générale du Comité national d'action laïque, déléguée UNSA.
On a une répercussion de ce qui se passe au sein de la société, même dès le plus jeune âge. Ils entendent autour d'eux beaucoup de propos. Parfois, ils vont répéter ce qu'ils ont entendu sans forcément prendre cette mesure de l'intensité ou de la violence que leurs propos peuvent avoir. Il faut qu'on puisse en parler, élaborer une stratégie par rapport à notre public au sein de l'établissement. effectivement. Et avec l'ensemble de réformes qui s'accumulent, on n'arrive pas à prendre ce temps-là.
L'islamophobie est également en hausse. Le nombre de signalements à l'école, au collège, lycée et à l'université a plus que doublé en 2 ans, selon la LICRA.
Un reportage Radio Classique signé Charles Ducrot.
Il sera fixé sur sa peine le 11 juillet et va faire appel.
Donald Trump condamné au pénal hier soir à New York. Une première pour un ancien président américain. Le républicain reconnu coupable d'avoir falsifié des documents pour masquer un paiement de 130 000 dollars à une ancienne star du porno afin de taire leur relation. C'est l'affaire Stormy Daniels. Il risque jusqu'à 4 ans de prison. Donald Trump indigné en sortant du tribunal.
C'est une honte. C'était un procès truqué avec un juge corrompu. Le vrai verdict sera celui du peuple le 5 novembre. Et ils savent ce qui se passe ici, nous le savons tous. Nous n'avons rien fait de mal. Je suis tout à fait innocent. Tout notre pays est en train d'être berné. Ça a été orchestré par l'administration Biden pour faire du mal à un opposant politique. On va continuer à se battre et on va gagner.
Donald Trump, 77 ans, reste libre et en campagne pour la présidentielle de novembre. Donc, pendant ce temps, son rival pour cette élection, Joe Biden, lui donne un feu vert à l'Ukraine pour que Kiev frappe le sol russe avec des armes américaines. Il s'y opposait jusqu'ici. Objectif, défendre la ville de Kharkiv dans le nord-est du territoire ukrainien, près de la frontière avec la Russie. 3 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes. C'est ce qu'annoncent ce matin les autorités régionale.
C'est officiel, les turbines Arabelle reviennent dans le giron français.
Annonce d'Emmanuel Macron dans une interview accordée aux journaux du groupe Ebra. Ces turbines fabriquées à Belfort sont essentielles pour les centrales nucléaires. En ce 31 mai, EDF reprend officiellement les activités nucléaires du groupe américain General Electric, annonce le chef de l'État.
La lutte contre les PFAS s'accélère.
Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté hier une proposition de loi pour restreindre l'usage de ces polluants dits éternels. On en compte entre 4000 et 12000 présents massivement dans les objets de la vie quotidienne, responsables de certains cancers. L'objectif de cette loi, bonjour Julie Drouin.
Bonjour.
C'est de les interdire progressivement.
Les cosmétiques, les fards utilisés sur les skis et les vêtements contenant des PFAS seront interdits à partir du 1er janvier 2026. En sont exclus les vêtements de protection, comme ceux des pompiers, mais aussi les ustensiles de cuisine, bien que la présence des PFAS soit largement prouvée, par exemple dans les revêtements anti-adhésifs des poêles en téflon. Il faut laisser le temps nécessaire aux industries françaises pour trouver des alternatives, justifient les opposants. Une tentative a eu lieu hier pour au moins mentionner la présence de ces polluants sur l'étiquetage des ustensiles, mais malgré l'avis positif du rapporteur du texte, l'amendement a été rejeté.
Alors après les modifications du Sénat, Julie, cette proposition de loi va retourner à l'Assemblée, deuxième lecture. Le texte prévoit aussi de renforcer la surveillance sur l'eau potable.
Car les eaux européennes sont déjà massivement contaminées par ces polluants éternels. Si la loi est adoptée, des contrôles obligatoires auront lieu sur l'eau du robinet et c'est une avancée du Sénat. L'eau en bouteille sera aussi concernée. Enfin, sur le principe pollueur-payeur, une redevance sur les rejets dans l'eau des PFAS verra le jour, comme celle qui existe pour les autres polluants. Pour le député écologiste à l'initiative de la proposition de loi, Nicolas Thiry, le vote du Sénat prouve que la bataille culturelle est en train de se gagner avec une vraie prise de conscience de la société. Le prochain combat concernera les ustensiles de cuisine contenant des PFAS.
Précision de Julie Drouin. Éric Woerth propose de rétablir le cumul des mandats. Le député de l'Oise a remis un rapport pour rétablir la confiance entre l'État et les collectivités. Il propose donc que les députés et sénateurs puissent être maires, adjoints au maire ou présidents d'intercommunalité, ce qui a été supprimé en 2017. Après Fitch et Moody's, ce soir c'est Standard & Poor's qui va dévoiler sa note sur la dette de la France. Elle a été maintenue en décembre dernier à double A, mais assortie d'une perspective négative.
Et on en reparle dans le journal de l'économie dans un peu moins d'un quart d'heure. Pierre, c'est la 23e édition de la Nuit Blanche ce week-end.
À Paris et dans 30 communes d'Île-de-France dans la nuit de samedi à dimanche, avec du sport au programme à l'approche des Jeux Olympiques, Marine Salaville.
En commençant par le petit nouveau de ces Jeux 2024, le skateboard, Nuit Blanche décide de célébrer cette discipline dans une sorte de carnaval sonore déambulatoire entre l'hôtel de ville et la place de la République où les skateurs seront transformés en sorte de boîte à rythme vivante. Dans le Marais, la boxe sera mise à l'honneur avec une œuvre immersive, Ring of My Dreams, comprenez le ring de mes rêves, une sorte de film d'animation commenté pour valoriser la sensualité de la boxe, le sport le plus prisé kids et du cinéma en le rapprochant de la danse. La danse qui sera célébrée dans l'exposition de l'Institut polonais de Paris qui s'intéresse aux liens entre corps, mouvement et pratiques sportives. Le vélo, quant à lui, sera fêté toute la soirée au pavillon de l'Arsenal. Enfin, la gare expérimentale dans le 19e arrondissement propose une exposition sensorielle dans le noir total pour mieux se plonger dans l'ambiance des Jeux Olympiques.
Et la suite du deuxième tour de Roland-Garros, le français Gaël Monfils éliminé hier soir. Ça passe en revanche pour Chloé Paquet qui joue dès aujourd'hui son troisième tour face à la Tchèque Vondroušová, sixième joueuse mondiale.
Merci Pierre Pilet, c'est le journal de 6h30 de Radio Classique. Le plongeon du déficit de la Sécu, 16 milliards au lieu de 10 cette année. C'est la une du journal de l'économie dans 10 minutes. D'abord une nouvelle invitée, on enfile un pull en cachemire dans un instant. Radio Classique, 6h39.
Demain à 20h, vivez l'émotion des concerts depuis la Philharmonie de Paris. Klaus Makela dirige l'Orchestre de Paris dans un programme baigné de clair-obscur où le voyage nocturne de Schoenberg et sa nuit transfigurée rencontrent la lumineuse 4e symphonie de Mahler avec la soprano Christiane Karg. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
Il est 6h40, bonjour Laurence Lévy.
Bonjour.
Directrice générale d'Éric Bompard, bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Éric Bompard, c'est le nom du fondateur évidemment, qui n'était pas du tout dans le textile au départ.
Pas du tout, c'était un businessman, c'est un informaticien et il s'est pris de passion pour cette matière qu'il trouvait être et que je pense nous trouvons tous être la plus belle matière d'exception et il avait envie de la mettre à la portée du plus grand nombre possible.
Il est tombé amoureux du Cachemire.
Dans les années 80. Exactement, il est parti en voyage en Mongolie intérieure, il est tombé amoureux de tout ce qui s'y passait là-bas, de ce savoir-faire ancestral. Il a rencontré notre fournisseur historique qui est toujours notre fournisseur et c'est comme ça que l'aventure est née, que l'histoire s'est créée.
Et d'ailleurs, je pose la question tout de suite, est-ce que quand on dit un pull en cachemire, il y a une sorte d'AOP comme pour les vins, les fromages
Alors, il y a différents types de cachemire, mais c'est vrai que de plus en plus de marques vendent des pulls en cachemire, proposent du cachemire, mais nous n'avons pas tous le même cachemire. Donc en effet, nous, on a un cachemire de grade A, ce qui veut dire qu'on va aller récolter la fibre la plus fine possible du sous-poil d'une petite chèvre à une altitude spécifique. Donc c'est vraiment extrêmement...
C'est ça qui caractérise le cachemire de grade A.
Exactement, regarde le micronage en fait de la fibre, donc c'est vraiment quelque chose de très très précis pour s'assurer qu'il soit confortable mais aussi durable. Et la durabilité est vraiment quelque chose qui est très très important dans le savoir-faire d'Éric Bompard.
Donc c'est à la fois un type de fibre précis, oui. Un type d'animal précis.
Exactement.
Et une région aussi.
Exactement, et une
toujours
région.
En Mongolie intérieure.
Exactement.
En Mongolie intérieure. Comment s'est construit le succès petit à petit d'Éric Bompard depuis bientôt 40 ans ?
En effet, donc on a l'année prochaine nous fêterons nos 40 ans. En fait, c'est vrai qu'au milieu des années 80, donc en 1985, on a eu donc toute une partie du succès qui a été vraiment Éric Bompard a ouvert des boutiques principalement en France. Aujourd'hui, nous avons 67 boutiques, dont 55 en France. On est présent dans 6 pays européens et on vient d'ouvrir aussi la Corée. Il a fait connaître cette matière, il a fait connaître ce savoir-faire. La palette de couleurs a été aussi quelque chose d'un élément très très distinctif du succès parce qu'on a proposé des milliers de couleurs sur toute notre histoire. Et ensuite, des techniques de tricotage qui sont très propres à nous. C'est-à-dire qu'on peut aller de l'ultra fin, qui est quelque chose de très très technique, une technique très très minutieuse d'alignement des fibres, jusqu'à des cachemires très très épais. Donc c'est vrai que, historiquement, on est connu pour des pulls doux, confortables et hivernaux, mais de plus en plus, on se développe aussi sur d'autres matières
tout à l'heure, effectivement, on pense, Éric Bompard en pense, pull en cachemire, sauf que vous faites de plus en plus autre chose que des pulls et autre chose que du cachemire, donc il y a de la soie, du coton.
Exactement
et du
ça.
Côté des types de vêtements, vous allez jusqu'au maillot de bain, les pantalons, des robes, enfin des jupes.
Tout à fait.
Toute une gamme finalement.
Tout à fait. Alors en fait déjà ce qui nous définit, c'est vraiment on est né d'une matière et d'une matière d'exception, donc on veut tirer ce fil, si je puis dire, de la matière et rester dans les matières nobles, ces matières nobles et souples et d'exception qui ont fait notre succès, mais qui doit rester, je dirais, notre ADN. Donc on va pas aller sur des matières qui sont des nylons, des polyesters, etc. On va toujours aller chercher la matière la plus noble, le coton le plus noble, la soie la plus noble, et on va travailler en fait de plus en plus ces mélanges-là. Donc aujourd'hui, on a, sur notre prochaine collection automne-hiver, nous aurons sur notre partie saisonnière, donc qui se renouvelle d'offres, la moitié de notre offre qui n'est pas en 100% cachemire. Donc on va chercher des mélanges et on va aussi chercher du 100% d'une autre matière si nous jugeons que cette matière rentre bien dans notre ADN. Et en effet, on travaille aussi la silhouette. Éric Bompard, c'est pour les hommes, les femmes et aussi les enfants et les bébés. On est une marque très cadeau, mais on est aussi une marque qui propose une silhouette en vestiaire. Ça veut dire d'être capable d'aller aussi bien habiller une femme qui veut aller travailler tous les jours et qui cherche un petit pull, ou une personne qui veut avoir une silhouette un petit peu plus assumée, quelqu'un qui voyage et qui a envie d'une tenue très confortable. Et donc c'est la raison pour laquelle de plus en plus on se développe en dehors du pull. On se développe sur des hauts, on se développe sur des bas, et on a envie d'imposer, je dirais, une allure Bompard.
Vous avez dit, on est une marque très cadeau. C'est quoi le positionnement d'Éric Bompard? C'est premium? C'est le luxe accessible?
C'est drôle parce que c'est vrai qu'en effet, c'est compliqué pour nous, en fait, de nous définir. Nous ne sommes pas une marque de luxe, parce que nous avons encore en nous cette volonté vraiment de rendre le cachemire accessible. Nous avons tout type de clients qui viennent, et en effet, en particulier au moment de Noël, vous avez la femme qui viendra faire un cadeau, qui aura un petit budget, qui trouvera une paire de gants à 75€, tout comme vous avez des gens extrêmement fortunés qui achètent énormément de cachemire. On a plusieurs centaines de clients aujourd'hui dans chez Bompard qui dépensent plus de 10 000€ par an, donc ce sont des sommes assez folles.
Parce que je veux dire, le pull un peu de base, c'est quoi? C'est autour de 200,
c'est
300
200, entre 250 ouais. et 300 euros, vous avez le pull, qui est notre classique intemporel. Ouais. Mais c'est vrai que notre dimension, je dirais, cadeau, et le fait que nous sommes une marque qui se transmet de génération en génération, fait que finalement, en fait, on arrive à être une marque qui est ouverte pour différents types de budgets et des types de clients.
Vous proposez aussi des services de réparation. C'est récent, ça fait longtemps.
Alors, ça fait 2-3 ans que nous proposons ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient, je pense, tous à cœur. Parce qu'en effet, ça s'inscrit parfaitement dans cette composante absolument clé de l'ADN Bompard, qui est la composante de la durabilité du produit. Un cachemire est déjà, de par essence, et par la façon dont on le tricote et qu'on va choisir la matière, très durable, mais
nous et fragile aussi. Ça peut être fragile, un pull.
Alors voilà, ça peut avec des éléments extérieurs qui peuvent être malheureusement des mythes ou autres. Mais c'est vrai que nous proposons donc ce service. Nous avons un atelier à Saint-Ouen avec des remailleuses, qui sont des remailleuses Bompard, sachant que le remaillage est un savoir-faire qui est vraiment en voie de disparition. Et donc si vous avez un pull qui a eu un souci, vous le rapportez en boutique et nous le réparons. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet évidemment d'accroître la durée de vie du produit, mais aussi de vraiment jouer sur cette durabilité. Donc pour répondre à votre question de tout à l'heure, je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'avènement de la fast fashion et en même temps l'hyper luxe, je trouve ça très juste pour Bompard de se situer sur ce cœur en effet premium luxe, mais d'arriver avec ce type de service très différenciant qui font.
Oui, parce que tout ce qui est en dessous a beaucoup souffert. On a quand même une bonne douzaine de marques françaises de textile qui ont été liquidées ou qui sont passées par un redressement judiciaire rien que sur les 18 derniers mois.
Tout à fait. Et c'est là où en effet le savoir-faire et la qualité doivent rester, et la proposition de valeur qu'on offre à nos clients doivent rester. C'était vraiment notre obsession, je dirais, au quotidien.
Laurence Lévy, merci beaucoup, directrice générale d'Éric Bompard.
Merci beaucoup.
Notre invitée ce matin en direct dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée. Et tout de suite, Quentin Périnel.
La matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
Au travail tous les jours sur Radio Classique avec le journaliste du Figaro, Quentin Périnel. Bonjour Quentin.
Bonjour François, bonjour à tous.
Vous nous faites parfois des focus sur un métier et aujourd'hui vous nous parlez d'une profession de niche.
Oui, au travail avec un métier qui fait rêver ce matin, cher François, celui de réalisateur. Bon, le festival de Cannes est terminé, certes, je sais bien, mais ce métier est celui de tous les jours, il fait partie des métiers passion par excellence. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, je vais pas vous faire une liste exhaustive de ces réalisateurs de référence. Il y en a trop. Et en France, c'est plus de 102 000 personnes qui exercent cette profession selon des chiffres exclusifs de Randstad et Golden Bees que nous dévoilons ce matin. Ils gagnent en moyenne 5 412 € bruts par mois. Ce chiffre tient compte du salaire, mais aussi des primes et autres formes de rémunération. Le salaire est plus que correct d'emblée, puisque les plus jeunes, qui ont autour de 25 ans, gagnent déjà environ 3 400 €, et cela monte au double pour les plus de 50 ans.
Alors, est-ce que c'est un métier qui recrute partout en France?
Non, enfin du moins pas en masse. Ce métier du 7e art concerne actuellement 259 offres d'emploi. C'est assez peu. C'est un job d'ailleurs très francilien, très parisien même, puisque 77 775 réalisateurs exercent leur métier en Ile-de-France. Ça représente près de 80% de la profession. La majorité d'entre eux a entre 36 et 49 ans. Les réalisateurs sont des intermittents du spectacle, souvent de niveau bac plus 5. Après le bac, il faut compter 5 à 6 ans pour préparer un diplôme d'école de cinéma. Donc il y a la FEMIS, Louis Lumière par exemple, ou d'école de réalisation audiovisuelle, l'ESRA ou autre. Le rôle du réalisateur est de découper en différents plans, différentes séquences, un film, un documentaire ou une émission, d'assumer des choix esthétiques et d'avoir une vision globale du film qui doit être transmise aux techniciens et aux techniciennes.
Oui, parce que c'est un métier, c'est aussi du management. Hein.
Et oui, le réalisateur est un manager. Il s'agit de diriger parfois plusieurs dizaines de personnes et presque autant de métiers différents et de créer une ambiance, d'emporter tout le monde avec soi sur des tournages qui durent parfois plusieurs mois. Hein. Des scènes à rejouer, d'autres à altérer. Bref, rien ne se passe jamais comme prévu. Si le réalisateur n'est pas un cadre en entreprise, il a bien en revanche le devoir de cadrer sa création artistique. Il doit aussi recruter les acteurs, notamment constituer son équipe qui l'accompagnera tout au long du projet, trouver l'alchimie entre ses différents acteurs. Il doit aussi trouver des investisseurs qui vont croire en son projet comme un start-upper. Il faut convaincre. Et tout cela doit mener vers la rentabilité, vers le box-office. Et oui, car les créations audiovisuelles, ça coûte de l'argent. Et l'indicateur de performance, eh ben, c'est le nombre d'entrées dans les salles de cinéma ou l'audience enregistrée à la télévision ou sur les plateformes en ligne qui sont légion désormais, vous le savez.
Le métier de réalisateur ce matin dans Au Travail avec Quentin Périnel. Merci Quentin.
Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Encore une énorme erreur de prévision, cette fois sur le déficit de la Sécu, et ce au moment où la France tremble pour son double A avec le verdict de S&P ce soir. L'heure du choix pour Atos entre les différentes offres de sauvetage financier. Et puis un paradoxe, la consommation d'eau potable baisse, mais cela pourrait la rendre plus chère. À quelques heures d'une possible dégradation de la note souveraine de la France par Standard & Poor's, il y a de quoi être sidéré par l'annonce hier soir d'un déficit de la Sécu bien plus élevé que prévu pour cette année. On pensait 10 milliards et demi, et non, ce sera 16 milliards et demi d'euros. Éric Mauban, comment en arrive-t-on à un tel décalage par rapport aux estimations d'il y a quelques mois à peine ?
Eh bien, tout comme le dérapage du déficit public, la cause de cette dérive est la faiblesse de la croissance qui s'avère bien inférieure aux prévisions. À l'automne 2023, l'exécutif tablait pour cette année sur une augmentation d'1,4% de l'activité économique. Mi-février, le gouvernement a ramené ce chiffre à 1%. Cela veut dire que des recettes vont manquer à l'appel. Il y a moins de création d'emplois que prévu, donc moins de masse salariale, donc moins de CSG, moins de TVA. Or, le régime général de la sécurité sociale est financé à environ 80% par des cotisations et des contributions assises sur les rémunérations. À noter également la nette détérioration de la branche vieillesse de la Sécu, qui englobe notamment le régime général des retraites. Rappelons qu'en février, les retraités ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension de 5,3%, qui va contribuer à la dérive des comptes, et qu'à l'horizon 2030, le nombre de Français âgés de plus de 65 ans sera supérieur à celui des moins de 20 ans. Cela va bien sûr à terme poser un problème de financement. Il va falloir trouver de nouvelles recettes. La Cour des comptes a d'ailleurs lancé cette semaine un message d'alerte à ce sujet et proposé des pistes de réflexion comme la fin de l'indemnisation de la par la Sécurité sociale des arrêts de travail de moins de 8 jours ou une révision des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les compléments de salaire.
Éric Mauban, on parlait des retraites. La dernière réforme est passée il y a un an dans la douleur, on s'en souvient. Âge légal de départ poussé à 64 ans. Chez les dockers, on était jusque-là à 58 ans et cela va se décaler à 60 ans. Mais les syndicats n'entendent pas de cette oreille. La CGT des dockers appelle à 4 jours de grève étalée sur le mois de juin. On sait que cette profession est capable de bloquer vite et fort. On verra si les dockers obtiennent la même chose que les contrôleurs SNCF il y a quelques semaines sur les fins de carrière. Mais revenons aux finances publiques. Il y a un mois, le gouvernement était soulagé par les décisions de Fitch et Moody's qui maintenaient inchangées leurs notes sur la dette de la France. Une toute autre limonade ce soir a priori avec Standard & Poor's, S&P, la plus influente des agences de notation, qui dévoile son verdict. Elle attribue pour l'instant un double A, mais avec perspective négative. Alors faut-il s'attendre à une dégradation ce soir ? Le pronostic de John Plassard, directeur chez Mirabeau.
Oui, une dégradation se profile pour la simple et bonne raison qu'on est dans une situation où, malgré les dernières réformes ou tentatives de réformes qui ont été annoncées, on sait que la dette et la charge de la dette pour la France est de plus en plus importante et devrait même s'accélérer en 2025. Pas réellement de conséquences, paradoxalement. On sait qu'il y a d'autres choses sur lesquelles se focalisent les marchés financiers, et notamment la réunion la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine qui devrait baisser ses taux. Maintenant, l'évolution de la note de la France ne va pas avoir un impact majeur sur les marchés financiers au réveil lundi matin.
La note dégradée effectivement aura peu d'impact. Les marchés généralement anticipent et se fient plus à tout un tas d'indicateurs au fil de l'eau sur les finances publiques et la solidité de l'économie. Actuellement, la France emprunte à 10 ans à un taux de 3,15%. L'Allemagne est à 2,65%. Toujours cet écart d'un demi-point. Les marchés financiers hier dans le rouge, le Dow Jones a perdu 0,86%, le Nasdaq a reculé d'1%, le CAC 40 a gagné lui 1,5%, 7978 points, le Nikkei progresse en ce moment d'1%, l'euro vaut 1,0818 et le baril de Brent est à 81$. Boeing a remis hier soir au régulateur américain de l'aviation une feuille de route pour résoudre ses problèmes de production, mise en lumière par l'arrachage d'une porte en plein vol début janvier. 6 indicateurs clés de performance devraient permettre à Boeing de surveiller en temps réel la qualité de la production. On verra ce qu'en pense la FAA, de l'administration donc américaine de la sécurité. Le feuilleton Atos, les candidats à son rachat avaient jusqu'à aujourd'hui pour déposer leur plan de sauvetage pour garantir la pérennité des activités tout en obtenant le feu vert de ses créanciers. Céline Cajoulis.
Dans les prochains jours, plusieurs choses vont guider le choix du repreneur. D'abord, la préservation de l'intégrité du groupe et de l'avenir de ses 100 000 collaborateurs. Certaines déclarations faites ces derniers jours sur une sorte de dette cachée ont obligé la direction à mettre les points sur les i. On ne dénigre pas Atos comme cela, c'est dangereux pour l'entreprise, les salariés et les clients. La priorité, c'est de sauver Atos, alors les créanciers doivent s'y faire, ils ont perdu de l'argent. S'il y a quelque chose à récupérer à la fin, ils seront tous traités de la même façon, il n'y aura pas de créanciers prioritaires. Même pas la BCE qui détient 10% de la dette. La solution sera industrielle avant d'être financière. Autre point important, il faut une solution de long terme, avec des objectifs stratégiques pour conserver, au moins dans un premier temps, le groupe tel qu'il est. Enfin, il faut, comme me le disait une source proche du dossier, une certitude d'exécution, c'est-à-dire une véritable capacité à mettre en œuvre le plan proposé. L'offre qui sera retenue servira ensuite de base de travail et de discussion pour obtenir une offre satisfaisante, répondant à une vision de court terme, à un développement industriel et à un niveau de dette satisfaisant, avec pour objectif final d'obtenir début juillet une solution viable et soutenable.
La suite des sessions de magasins Casino aujourd'hui même, notamment à Auchan. Auchan qui apparaît aujourd'hui comme le maillon faible du secteur, selon Olivier Mével, maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale.
Incontestablement aujourd'hui, avec on va dire une part de marché qui est faible aujourd'hui, qui est à 8,5%, Auchan pose question en termes de pérennité de la distribution. Le groupe Leclerc, Intermarché, Lidl mène un train d'enfer sur les prix. Si Auchan n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir apporter la contradiction sur la gain des prix, il subira une baisse des volumes. Mais en grande distribution, effectivement, tout tourne autour des volumes et de la logistique qui conditionne le prix final des produits. Auchan est devenu une petite entreprise à l'échelle internationale et même si Auchan aujourd'hui a créé des liens de coopération avec d'autres distributeurs, l'entreprise est structurellement petite et c'est pour ça qu'on l'appelle le maillon faible.
La consommation d'eau potable a légèrement baissé en France en 2023, bonne nouvelle a priori. Sauf qu'il y a un paradoxe, le modèle économique de la distribution d'eau repose sur les volumes consommés et facturés, Zoé Pallier.
Dans les Deux-Sèvres, la consommation d'eau potable a baissé de 6% en 2023 et cela inquiète Bernard Gaufretot, le président du service local d'eau et d'assainissement.
C'est notre seule ressource financière, donc moins de consommation d'eau, obligatoirement moins de recettes. Donc pour faire face à cette baisse, le prix du mètre cube il a été augmenté de 15 centimes d'euros.
Autre conséquence, certaines canalisations vieillissantes n'ont pas été remplacées.
On a réduit les investissements de 600 000 euros, ce qui est énorme. Mais on n'a plus le choix.
Et c'est sans compter les travaux à venir pour adapter les réseaux au dérèglement climatique. Régis Taine de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.
Sur certains territoires, il y a moins d'eau. Il va falloir aller la chercher plus profond. Les excès d'eau risquent de faire déborder les réseaux d'assainissement. Donc, il va falloir investir plusieurs milliards d'euros par an. C'est toute la difficulté de concilier les enjeux environnementaux, les enjeux économiques et puis les enjeux sociaux. d'eau parce que si le prix de l'eau augmente, il va falloir que même les plus pauvres continuent à avoir accès à l'eau.
Pour les acteurs du secteur, il faut quoi qu'il arrive faire évoluer la tarification. Parmi les pistes, augmenter la part fixe des factures d'eau, c'est-à-dire l'abonnement, pour ne plus dépendre autant des variations de consommation.
Zoé Pallier. Virginie Fulpin, les températures restent fraîches.
Dernier jour du mois de mai et il fait 8 degrés ce matin à Nantes, La Rochelle et dans le Limousin et le Cantal. Entre 11 et 12 degrés dans la moitié nord, 15 au bord de la Méditerranée et 16 en Corse. Cet après-midi, il fera 24 degrés de Perpignan à Nice, 16 à Paris, Strasbourg et en Normandie. Grand soleil, en revanche, le long de l'Atlantique et près de la Méditerranée, des éclaircies dans la moitié sud et de la pluie dans le quart nord-est.
Bonjour David Abiker.
Bonjour François, bonjour à tous.
À la une ce matin, Trump jugé coupable.
C'est l'information de cette nuit. L'ex-président des États-Unis reconnu coupable dans l'affaire Stormy Daniels de 37 chefs d'accusation. Pour la condamnation, il faudra attendre quelques semaines. On vous en reparle dans les journaux de la rédaction. De même que nous reviendrons sur les propos hier soir du Premier ministre israélien. Hier, chez nos confrères de LCI, notre victoire, c'est votre victoire, a-t-il notamment affirmé. Étranger toujours, Christian Macarian vous expliquera comment le Rwanda passe à l'international pour un État exemplaire. La réalité est toute différente. Ce sera l'écho du monde à 7h40. Politique, la gauche aiguise ses couteaux pour l'après 9 juin, nous dira David Doucan dans les coulisses de la politique. Guillaume Tabar, lui, vous présentera les propositions d'Éric Woerth pour relancer la décentralisation. Enfin, nous ferons un pas de côté avec l'invité de 8h15. Un pas de danse même. Aurélie Dupont, ex-danseuse étoile et ex-directrice de la danse à l'Opéra de Paris, se raconte dans Pourquoi tu danses, livre qui revient sur un genou en morceaux. La danseuse est revenue au premier plan après des mois de rééducation avec un rugbyman et la figure de Bruce Lee comme inspiration. Bon réveil sur Radio Classique, il est 7h.